4. Catherine le matin. Voici le Doc Mayou.
Docteur Mayou en direct de l'Ontario ce matin, est-ce que j'ai bien compris? Fait son émission en direct de Gatineau, de notre station sœur. Où êtes-vous, Docteur Mayou, sur la planète?
Eh oui, j'explore. Catherine, Raphaël, Sergey.
Bon matin.
On me court après. Non, là, ce matin, j'ai dormi du côté québécois.
Ah oui,
mais OK. Hier, on a eu un 4 à 7 extrêmement intéressant du côté de l'Ontario.
Ah oui? Coudon, vous êtes dans les 4 à 7 puis dans les soupers ces temps-ci?
Pardon?
Vous êtes dans les 4 à 7 puis les soupers ces temps-ci?
Oh oui, avec José, là, officiellement. Oh.
OK, parfait.
Et j'ai pas pris de boisson, je suis en forme ce matin.
Bon, et parlez-nous, qu'est-ce qui vous retenez de votre 4 à 7 du côté ontarien hier?
Catherine, oui? 20 % des auditeurs du poste de Hall, de Cogeco Hall 104.7,
oui?
FM 104.7, mm-hmm. Bob Rioux, le directeur, m'a appris que 20 % des auditeurs étaient du côté ontarien.
Ah oui, c'est pas si
loin. J'ignorais qu'il y avait autant de Canadiens français du côté ontarien.
Oui, il y a beaucoup de franco-ontariens, en effet. Oui, ben moi, je tombe pas de ma chaise.
Et là, ils m'ont appris quelque chose.
Oui.
Lorsque le poste de Gatineau mentionne les Québécois, il exclut les Canadiens français, les franco-ontariens.
Attendez, je vous suis pas là.
C'est important de parler de la nation canadienne-française. Parce que c'est une nation et ça n'a rien à voir avec les limites géographiques. Exemple, lorsqu'on parle d'un Québécois, on ne parle pas d'un Canadien français, on parle de quelqu'un qui habite à l'intérieur des limites géographiques du Québec.
Mm-hmm. Oui, je suis d'accord.
Soyez prudent. Si vous croyez que lorsque vous dites Québécois, vous dites Canadien français, non, pas du tout.
Ben oui et non, Dr Mayou. Je comprends ce que vous voulez dire. Oui, un Québécois, c'est quelqu'un qui habite au Québec, c'est vrai.
Oui.
Mais tu peux être Québécois de souche puis habiter en Ontario aussi, là. Puis t'es Canadien-Français en même temps parce que t'habites le Canada, mais dans une province anglophone, mais votre langue maternelle, c'est le français.
Alors, pour ne pas qu'il y ait d'équivoque, c'est Canadien-Français. La nation, c'est Canadienne-Française.
OK. Bon, ben...
Et j'ai appris, écoutez, là, j'étais du côté à Orléans. C'est à une quinzaine de minutes en Ontario, d'Ottawa,
mm-hmm.
OK, du côté ontarien.
Ouais.
Et il y a toute une série de villages, Orléans, Rockland, Hawkesbury, Embrun, Castleman, où il y a beaucoup de Canadiens français qui y vivent.
Oui, mais oui.
Et ils sont très actifs. Hein?
Mm-hmm.
Ils ont sauvé l'hôpital Montfort à Ottawa,
okay.
Que le gouvernement de Toronto voulait fermer.
Bon, ben, vous parlez...
Et ils ont réussi à garder ouverte l'hôpital Montfort. Hein? Dernièrement, l'hôpital Montfort a reçu un prix d'excellence de Toronto.
Ah bon. Bon, Dr Mayou, c'est pas qu'on s'intéresse pas à l'hôpital Montfort, là, mais je pense pas qu'en Mauricie que c'est le sujet de conversation de la machine à café ce matin. Là. Je le dis pas avec manque de respect, là, mais pas sûr que ça intéresse tant que ça les gens de chez nous. Là.
C'est qu'on aurait peut-être avantage à être beaucoup plus ouvert aux Canadiens français hors Québec.
Oui,
Peut-être nous apprendre certaines leçons de cohésion sociale.
Peut-être.
Oui, vous allez parler de ça autour du café. Est-ce que il y a suffisamment de cohésion entre les Canadiens français du Québec?
Ouais. Oui, ça se peut. Là. Mais comme je vous dis, là, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui,
alors,
c'est le temps
autour du café,
temps,
interrogez-vous ce matin sur la cohésion sociale.
OK, on fera
entre
ça.
Canadiens français, au lieu de vous lamenter.
Mais là, on ne fait pas juste se lamenter. Des fois, on a des sujets...
C'est comme ça qu'on réalise. Je vous citais l'exemple de l'hôpital Montfort comme étant un exemple de réussite de cohésion sociale.
OK. Bon. On peut-tu parler un petit peu de l'étude?
Oui.
C'est parce que là, le temps file. On peut-tu parler un petit peu de l'étude de Raphaël? C'est intéressant.
Oui.
Là, on se penche...
Oh, Catherine, tu m'as fait plaisir.
Ouais.
Il y a 30 ans, j'étais vulgaire. j'ai affirmé à maintes reprises parce que les études sur l'infidélité étaient 65 % des hommes qui étaient des infidèles et 25 à 28 % des femmes.
Ouais.
Alors moi, de m'insurger, j'avais la même réaction il y a 30 ans que tu as eue tout à l'heure.
Ben.
Et j'avais l'habitude de dire, attachez vos trucs, les jeunes, s'il vous plaît, bouchez-vous les oreilles. Lorsqu'un homme est infidèle, ce n'est pas avec la truie du voisin, c'est avec une femme.
Ben,
oui, je conviens que c'était inacceptable comme propos radiophonique.
Vous voulez répéter d'abord.
Pardon?
Êtes-vous obligé de les répéter ce matin? Ou ça
vous... Non, mais je t'informe de ce que je faisais.
Oui,
je m'en souviens. Et ce que je ne dis plus.
Ah, OK, parfait, je comprends. Ça. OK, oui. Alors, je comprends très bien, mais vous aviez raison. Au-delà de, bon, du terme mal utilisé, là, il reste qu'en bout de ligne, c'est ça pareil. Les hommes, en tout cas, de façon majoritaire, doivent tromper leur femme avec une femme. Peut-être certains avec un homme, là, mais bon, dans la plupart des catégories, ça doit être avec une femme.
Mais Doc, moi, j'ai deux questions par rapport à l'étude. Pourquoi la tranche d'âge précise des 30 à 45 ans? Et pourquoi il y en a qui disent que ce serait bénéfique pour leur couple?
Ben oui. Bon, première question, 30 à 45 ans. Mm-hmm. C'est quoi la réponse, Raphaël?
30 à 45
d'après
ans.
D'après toi?
Ben, j'aurais tendance à dire qu'on était dans une période charnière où, je sais pas moi, les couples commencent à se détruire.
Non. Alors, il y a la libido, l'appétit pour le sexe, chez la plupart des femmes, part d'à peu près zéro autour de 18 ans. Très peu. Et l'appétit sexuel des femmes va augmenter pour la plupart, graduellement, pour atteindre un pic, là, son maximum, dans la quarantaine.
Mm-hmm.
Alors, c'est simplement pour ça, Raphaël. Autrement dit, Raffi, 30 à 45 ans, c'est la tranche d'âge où elle commence à apprécier le membre.
Ouais. Mais oui, mais c'est vrai que là-dessus... Puis, ce qui est plate, c'est que c'est complètement à l'opposé de vous autres.
Exactement.
Les hommes, vous autres, votre pic est à quoi? 18 ans? 21 ans?
18 ans. À 18 ans, le sommet de l'appétit sexuel pour un homme donné est atteint. Alors, l'histoire du démon du midi, là, allez vous rhabiller, ça n'existe pas.
Ça existe
pas. Ça, c'est une légende urbaine.
Mais pourtant, on le constate chez certains hommes, par exemple. Les hommes... Ben, oui, allez-y.
Ce n'est pas un problème d'appétit. Lorsqu'un homme fantasme sur la fellation depuis 20 ans et à un moment donné, il en prend une qui est active, il capote. Pas parce que son appétit sexuel a augmenté, parce qu'il s'adonne à une pratique sexuelle qui le stimule beaucoup.
Oui, mais attendez, là, expliquez-moi d'abord pourquoi des hommes de 55 ans tombent en amour avec une jeune femme de 21 ans. Si elle n'est pas à son pic sexuel, l'intérêt est où d'abord?
Beaucoup plus compatible.
Beaucoup plus compatible?
Oui, c'est beaucoup plus compatible des hommes plus vieux et des femmes plus jeunes.
Mais compatible de quelle façon? Sexuellement?
Oui, parce que l'homme, au niveau de l'appétit sexuel, c'est beaucoup plus compatible. Alors, l'homme est plus tranquille, il ne l'achalera pas trop, et ça va être beaucoup plus une rencontre, un partage sexuel.
Ah oui? Ah bon?
Oui.
La façon dont vous nous l'expliquez, ça a l'air plate à mort. Mais écoute, chacun ses choix.
La nature est vraiment, sur le plan de la sexualité humaine, la nature est vraiment mal faite.
OK. Docteur Mayhew, je vais absolument prendre le temps. Je sais que vous ne l'avez pas écouté hier soir. Là, c'est un documentaire qui dure une quinzaine de minutes. C'est sur un ancien joueur de la Ligue nationale qui s'appelle Joe Murphy. Joe Murphy a été repêché en 86 à Montréal, par les Red Wings de Détroit.
Oui.
Aujourd'hui, il a 50 ans. Il est sans abri en Ontario. On a perdu sa trace. Et là, des joueurs de la Ligue nationale sont allés le rencontrer. Un homme qui a eu des problèmes de drogue, médicaments. Il est littéralement transformé. Je vous pose la question. Il a subi une importante commotion cérébrale à l'époque. Je pense qu'il jouait à ce moment-là avec Edmonton, si je me trompe pas, avec les Oilers. Est-ce que les commotions cérébrales déclenchent des problèmes de santé mentale?
Déclenche des modifications de personnalité et de comportement.
Okay.
C'est pas un problème de santé mentale, c'est pas une maladie, c'est l'organe qui est touché. Alors le cerveau est avarié et ne remplit plus les fonctions que normalement il devrait remplir. Alors ils ont des troubles de concentration, de l'impulsivité, de l'insomnie. Alors toutes les fois, la plupart des, dépendamment de l'ampleur des commotions, la plupart des fonctions sont atteintes. Il y a une perte d'efficience intellectuelle. Ça veut dire qu'ils sont pas mal plus intelligents que ce qu'ils étaient au point de départ. Il y a une perte de plusieurs points d'efficience intellectuelle.
OK. Parce que c'est ce qu'on...
C'est pas drôle.
Ah, non,
c'est vraiment... Et là, ce matin, quand est-ce que dans le hockey, football, vous allez commencer à vous interroger sur les casques de sécurité, les casques? Ces casques-là assomme, commotionne les joueurs. C'est dur comme du fer et ça résonne à l'intérieur de ça. Le cerveau veut éclater.
Notamment au football. Je pense que c'est pire.
Vous n'avez pas de blessure. La peau coupe pas. Vous n'avez pas d'enfoncement crânien, mais vous avez un paquet de monde là, au cerveau avarié par votre maudit casque.
Alors, il faudrait modifier les casques.
Comment ça se fait que je suis le seul au monde qui dit « Hey, une des raisons pour laquelle il y a autant de commotions cérébrales, c'est que le casque est trop dur. »
C'est vrai que vous êtes un des seuls, et pourtant, Dieu sait qu'il doit y avoir des spécialistes dans les équipes. Je peux pas
comprendre. Oui, vos spécialistes, écoute, vos spécialistes, avant qu'il y en ait un qui aille s'opposer à la vente des casques, qui se vendent une petite fortune, là. Écoute, c'est l'industrie des casques de sécurité dans tous les sports. Ça représente combien au Canada?
Ah, je sais pas en termes de chiffres, mais ça
on
va
parle
être...
de milliards.
Ah, sûrement. Oui, oui. Probablement.
Ben oui, puis là, tout le monde est en sécurité. Oui.
Alors qu'il n'y a jamais eu autant de commotions cérébrales, autant au hockey que
voilà.
Au football.
Ça prend des casques mous.
Mais des... Ouais.
Ça prend des casques, puis je dirais pas un casque, un casque mou pour absorber les chocs, mm-hmm. pas un casque dur.
Bien, vous êtes en train de prouver que vous avez raison, parce qu'on regarde, puis imaginez, là, ça, c'est ce qu'on sait. Il doit y avoir bien des commotions cérébrales de cachées. Puis ça, c'est ce qu'on sait, puis ça laisse des traces. Ça veut dire, Dr Mayhew, qu'une commotion cérébrale importante, ça, dans certains cas, comme Joe Murphy, ça peut laisser des traces à vie? Tu as des séquelles à vie?
Bon, c'est très variable, Catherine.
OK.
Là, pour des raisons que j'ignore, il y a des êtres humains, ben vous parlez à quelqu'un, écoute, à l'occasion, il faut bien que je me vante un peu, là. Catherine, ça fait 39 ans
ouais.
que j'effectue suivi de personnes commotionnées. Alors, je m'auto-proclame un expert des commotions cérébrales ce matin. J'en suis, sur une base régulière, rarement moins d'une quarantaine. Alors, c'est important que les auditeurs le sachent, là.
Mm-hmm. Ouais.
Tu sais, à l'occasion, il faut se vanter un peu, là.
Ah oui, absolument.
Bon, alors, je connais le tabac.
Ouais.
C'est, écoute, il y a des individus qui en subissent 3, 4, généralement, à la troisième, quatrième, ça commence à laisser des séquelles irréversibles. C'est-à-dire des séquelles permanentes qui vont durer tout le reste de la vie. Bon. C'est jamais pareil ouais. d'une personne à l'autre. Mmh. Et il y en a d'autres qui en ont eu plusieurs. Mais le cerveau s'est toujours réparé. Et on ne sait pas pourquoi. Comment se fait-il que certains... et c'est vraiment sournois. Il y a des individus qui en ont eu, mettons, 3... pendant l'enfance, adolescence, ils ont un accident d'auto, ils se font rentrer dans le derrière, complètement capoute, plus capable de travailler, trouble de concentration, trouble de sommeil, impulsivité, fatigabilité. Je comprends pas le phénomène.
Ah ouais. Mais donc ça, c'est les principaux symptômes, ce que vous venez nous décrire. Là.
Oui.
Okay.
Puis là, ils m'arrivent, puis ils me disent, « Ben oui, mais j'étais correct avant celle-là. Je le sais, je vous crois. »
Oui.
Puis ça n'a pas été une grosse commotion, la quatrième. Puis la troisième était 10 ans, 12 ans avant.
Mais
hey, t'as pas idée encore. Écoute, Catherine, avant-hier,
ouais.
sur le stationnement de Trois-Rivières, il m'attendait à la porte, puis il m'a accompagné jusqu'au stationnement. Un commotionné cérébral, personne ne s'en occupe. Plusieurs accidents d'auto. Personne ne s'en occupe. La SAC veut rien savoir, il est sur l'aide sociale, veut rien savoir de l'indemniser, puis là, il voudrait que je l'expertise. Écoute, j'ai des demandes, j'ai au moins deux demandes par semaine d'individus commotionnés qui voudraient que je les expertise.
OK, parce que cet homme-là n'est plus capable de travailler, n'est plus fonctionnel, c'est bien ça?
Ah, pas du tout.
Ah ouais.
Puis écoute, un gros gaillard, musclé, puis il a l'air, tu sais, ils ont plus de force.
Puis dans ce temps-là, est-ce que vous acceptez de le faire?
Ben oui, mais attends un peu, là. Je peux pas prendre toutes les commotionnées
non,
de la province.
Non,
c'est rendu qu'il y en a,
OK.
Ça n'a pas de bon sens. Puis tout ce monde-là sont pauvres. Écoute, si tu veux que je devienne pauvre, là, mets-moi là-dessus.
Mais
celle-là, c'est vrai que je vais être pauvre pour vrai.
Mais pourquoi on refuse de... Même on refuse d'analyser leur dossier ou on refuse de les indemniser?
Catherine, j'ai été un des premiers, il y a 20 ans, à me battre contre la SAC pour faire reconnaître des commotions cérébrales.
Mais parce que
il y a un neurologue de Québec. Il y a un neurologue de Québec qui s'est opposé à moi. J'écoute. Je voyais des symptômes où il n'y en avait pas.
Il vous disait ça?
Ben oui.
Mais pourtant, oui. Le neurologue, en général, j'imagine qu'ils doivent être supposés d'être des spécialistes. Ils doivent savoir.
Le neurologue, il dit, il n'y a pas eu de perte de conscience, il n'y a pas eu de commotion. Pour qu'il y ait commotion cérébrale, il doit y avoir une perte de conscience prolongée au moment du choc, du traumatisme crânien. Bing bang, c'est réglé. On se calme le pompon, là.
Et ça, c'est faux?
Ben oui, je comprends que c'est faux.
Ah.
Tous les joueurs de hockey le savent.
OK, fait que t'as pas besoin de perdre connaissance pour te faire diagnostiquer
une.
Ah non? Ah ben moi, je
croyais que. Non, non, elle est étourdie, Bazou, là. Elle est juste étourdie.
Okay, mais
et
donc...
contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas la boxe qu'on a le plus de commotionnés à cause des gants, de l'épaisseur des gants.
Ah oui? Mais il doit en avoir quelques-uns.
Oui, il y a des boxeurs qui, à la longue, après 300 combats, ouais, vont montrer certains signes de commotion cérébrale. Donc, Cassius Lee. Cassius Lee n'a jamais souffert de Parkinson. C'était un punch-drunk syndrome. Lui, dans son cas, il s'était tellement fait tabasser sur la tête qu'il avait de multiples petites hémorragies de petits vaisseaux qui avaient pété.
Vous avez compris qu'on faisait référence à Mohamed Ali, là?
Juste pour, oui.
OK, parfait. Son vrai nom, là? OK. Je veux juste que les gens nous suivent. OK, mais ben on... Mais ça serait le fun...
Comment?
De...
Mohamed Ali, c'est Cassius Lee. Mais Mohamed Ali, c'est son nom de conversion.
Oui, oui, je comprends, mais...
C'est non, son nom de Mouktouk. Mais,
Dr. Mayou. Oui, bon, ça allait parfait. Bien, là, ce ben matin.
Oui. Oui, ça allait bien.
Ça allait bien. Donc, on va arrêter ça, là. Vous comprenez ce que oui. je veux dire? Je veux juste que les gens oui. nous suivent. Il y a peut-être des gens qui ignorent que le nom... Bon, d'emprunt. Ben, en fait, c'est le nom d'emprunt, Mohamed Ali, mais il est connu comme boxeur, comme Mohamed Ali. Alors, c'était ça mon point.
Je vais être poli.
Oui,
ben,
oui, mais vous avez défailli à votre politesse. Bon.
Ben, oui, OK, je me reprends.
Okay, merci.
On peut se reprendre dans la vie?
Ah, absolument.
Je me reprends. Oui. C'est son nom d'artiste.
C'est son nom d'artiste. Bon, on va le dire. C'est mieux dit. Regardez okay. comme vous. Hein, bravo. Bon. Et que vous vous bonifiez. Je suis fière de vous. Bon, 7h28, il faut s'arrêter un petit peu. On reprend ça à la commission PM. À tantôt, Dr. Mayou.
Oui, bye.
7h28. On s'arrête quelques instants.